émanant des deux principaux partis. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et c'est là-dessus que s'achève cette édition. Je vous laisse en compagnie de Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
Avec les auditeurs de RFI, très bonne journée. Léa Boutin-Rivière, 8h10.
Radio G. 101.5 FM.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que vous pourrez arroser et voir grandir. Bonjour Sophie.
Bonjour Karine. Nous retrouvons tous les vendredis à 9h10 les semaines impaires afin de cultiver notre jardin intérieur. Et avant de commencer, si vous souhaitez réagir sur notre émission, vous pouvez le faire sur le site de Radio G, www.radio-g.fr.
Alors aujourd'hui nous recevons Pierre qui va nous parler des slasheurs. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bonjour Pierre. Alors, qu'est-ce que c'est d'être slasher ?
Eh bien, être slasher, d'après ce que j'ai compris, c'est le fait d'exercer plusieurs activités, d'avoir plusieurs activités, que ce soit professionnelles ou associatives, mais en tout cas de ne pas se condamner à une seule activité professionnelle, une seule activité rémunératrice ou non.
Ok. Et toi, comment t'as découvert ou comment tu vivais avant et pourquoi t'en es arrivé là ? Voilà, j'aimerais en savoir plus dans ce domaine. Alors c'est pas un métier, hein, c'est comment on pourrait le définir, une façon de vivre.
Oui, je pense que c'est une façon de vivre.
Une façon de vivre. Mmh. Et donc il y a peut-être des gens qui se retrouvent pas dans leur travail ou qui se disent tiens, je pourrais peut-être changer de travail ou avoir plusieurs travails. Toi, t'en es venu comment à ça justement ?
Eh bien, si je dois faire un résumé, je dirais que j'ai jamais eu de passion pour quoi que ce soit. Je m'intéresse globalement à peu près tout. N'importe quel sujet dont on va me parler risque de me passionner, en tout cas de susciter mon intérêt suffisamment pour que je lise, pour que je regarde des vidéos, pour que j'écoute des émissions. Mais je n'ai pas de véritable passion, que comme certains peuvent avoir la musique, l'art, etc. Ma passion, ce serait vraiment de tout découvrir, de découvrir le plus de choses possible, le plus de choses différentes. Et n'ayant pas de passion, quand on est dans le système scolaire classique, on nous demande très rapidement de choisir une orientation à partir de la seconde, une orientation suite au bac, une orientation pour les études supérieures. Et c'est quelque chose qui m'a toujours angoissé, sur lequel je me suis beaucoup retourné vers mes parents. En arrivant à la sortie du bac, je me suis demandé ce qu'il fallait faire. Mes parents m'ont dit, la filière scientifique, vu que tu as des bonnes notes, c'est plutôt une filière adaptée. Donc je suis parti en fac de sciences, pendant un an j'ai fait ça. Avant la fin de l'année, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, en tout cas que je n'y arrivais pas, je n'avais pas l'intérêt, la passion pour faire 5 ans de fac de sciences. Je suis retourné voir mes parents qui m'ont orienté cette fois-ci vers les beaux-arts, que je ne connaissais pas du tout, j'étais pas du tout familier au monde de l'art auparavant. Et c'est en arrivant aux beaux-arts que je me suis rendu compte, en tout cas, de ce que je n'aimais surtout pas faire. En tant qu'étudiant, donc j'ai essayé beaucoup de métiers différents, en tout cas beaucoup de petits boulots étudiants différents. J'ai travaillé depuis l'âge de mes 15 ans les vacances d'été et très rapidement je me suis dit que tous les boulots que je faisais en tant qu'étudiant, je voulais pas les refaire. Donc j'ai très rapidement commencé auprès des boîtes d'intérim à dire si j'ai déjà fait ce métier ou un métier similaire, je ne veux pas y retourner. Travailler à l'usine, ça m'est arrivé plusieurs fois dans différents secteurs, mais j'ai jamais voulu retourner dans un poste que j'avais déjà occupé.
Parce que tu n'aimais pas ou parce que tu te lassais ?
Un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'emplois que j'ai pu exercer en tant qu'étudiant ou même en tant que jeune qui m'ont vraiment intéressé. Généralement, ce qui me plaisait le plus dans les boulots que j'ai pu faire, c'est l'ambiance de travail, les collègues, où là j'ai pu trouver, par exemple, j'ai travaillé à la tannerie de Châteauneuf-sur-Sarthe, et pourtant la tannerie, donc ça sent mauvais, on manipule des peaux de bêtes, c'est physique, et j'ai passé un excellent moment avec les personnes avec qui je travaillais. Tel point que d'ailleurs, ils ont voulu m'embaucher en signant un CDI directement, j'avais 17 ans, donc j'ai dit je vais continuer mes études. Et en fait, au sortir de mes études, donc les études de Beaux-Arts m'ont amené non pas à avoir un métier, mais en tout cas à découvrir ce que je ne voulais plus faire, puisque en ayant exercé différentes activités pendant mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient pas pour moi, que je pouvais faire, mais qui ne m'intéressaient pas suffisamment pour que je m'y investisse sur une carrière. En parallèle des études de Beaux-Arts, j'ai fait un master à la fac de tourisme d'Angers, que j'ai eu, mais qui m'a emmené vers des missions de designer, de création de sites web, de création d'affiches, quelque chose qui me passionne et qui m'intéresse toujours, puisque j'ai mon autre entreprise avec laquelle justement je fais encore de ce genre d'activité. Mais la relation client, la recherche de nouveaux clients, la mise en valeur de mon travail auprès d'autres personnes, de réussir à se vendre, c'était quelque chose qui n'était pas du tout fait pour moi. Donc je me suis un peu dit, il faut que je me trouve quelque chose qui va réussir à me tenir toute ma vie, et surtout quelque chose dans lequel je vais pas encore une fois m'ennuyer au bout de 2 mois, quoi. Parce que sinon ça va être intenable, et je sais bien que à partir du moment où la motivation disparaît au travail, ça sert plus à rien, on n'a plus envie de se lever, on n'a pas envie d'y aller. Le soir, on a l'impréhension du lendemain de devoir encore faire une journée. On compte les heures quand on est au boulot. C'est juste pas possible, quoi. Et j'ai toujours vécu ça pendant très longtemps et dans tous les métiers que j'ai pu exercer.
Alors aujourd'hui, t'as quel âge, juste pour savoir? Comme on va voir.
Aujourd'hui, j'ai 37 ans. D'accord. Et j'ai fait quand même un petit calcul hier pour savoir combien d'emplois exacts j'avais exercé. Et donc, j'en ai exercé 35 avec celui actuel.
Ah oui.
Alors, il y a eu des petites missions de quelques jours, voire quelques semaines. C'est pas que des gros boulots qui m'ont pris plusieurs mois ou plusieurs années. Mais en tout cas, au travers de ces 35 expériences d'emploi différents, j'ai toujours eu cette lassitude qui arrivait plus ou moins vite. Donc, j'ai cherché, grâce aux Beaux-Arts, justement, j'ai trouvé ce qui était pour moi vraiment rédhibitoire. C'est-à-dire que je veux, quand je travaille, avoir une ambiance de travail qui soit agréable. Ça, pour moi, c'était un point primordial. Si j'arrive dans un travail, peu importe qu'il soit difficile psychologiquement ou physiquement, si l'ambiance de travail est là, si la motivation pour venir tout le matin est toujours là, bah ça reste un boulot très agréable. Peu importe les considérations autres. Et depuis que j'ai une famille, j'ai un autre point vraiment important que je veux mettre en avant, c'est avoir du temps à consacrer à ma famille. Ne pas me retrouver juste faire un bisou sur le front de mes enfants quand j'arrive parce qu'ils sont déjà au lit, ne pas les voir le matin, ne pas pouvoir passer les week-ends avec eux, ça c'est quelque chose que je veux absolument pas. Et donc je me suis plus ou moins orienté au fur et à mesure des années vers des métiers qui me permettaient d'avoir suffisamment de temps, qui me permettaient d'avoir peu de temps de transport, et je me suis rendu compte, la finalité, ce que je cherche aujourd'hui, c'est d'avoir un métier qui me semble utile.
Ok, alors tu fais quoi en ce moment ?
En ce moment, je suis AESH, donc accompagnant des enfants en situation de handicap. Ah
oui, comme moi. Ça. Je suis dans le privé, mais alors toi, tu es dans le public.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Et ça, t'aimes bien ?
Eh ben, alors j'ai commencé en septembre, donc je suis pas encore lassé. c'est très bien. C'est très bien.
Et t'as
pour
combien d'enfants ?
Et là, j'en ai actuellement. Enfin, j'en avais 3 jusqu'aux vacances de la Toussaint. Il y en a un qui a changé d'école. Donc là, depuis les vacances de la Toussaint, je m'occupe de plus ou moins 2 autres enfants en alternance sur les jours où j'avais le premier. Et pour l'instant, ça m'intéresse énormément. Donc je suis une petite fille qui a 3 ans, qui est en petite section. Je suivais donc un CP et également un CM2.
D'accord. Et puis là, c'est jamais pareil. Bah, je veux dire, t'as des jours ou des horaires différentes.
En fait, les horaires, de toute façon, c'est les horaires de classe classique. Donc, le début de l'école, une pause entre midi et 2, et la fin du boulot à 16h30. Le gros avantage que je trouve à ce travail par rapport à d'autres boulots que j'ai pu exercer, c'est qu'une fois que le travail est terminé, c'est vraiment terminé. Il n'y a pas de charge mentale liée au travail, j'ai pas de préparation ou de correction, contrairement aux professeurs, aux instituteurs, etc. Et ça, pour moi, c'était important de pouvoir être disponible pour ma famille au moment où je rentre le soir. Parce que au-delà du travail, du coup, j'ai pas mal d'engagements aussi associatifs qui me prennent énormément de temps sur mes temps libres, et donc le soir, les week-ends, les mercredis, et je veux pouvoir concilier un peu tout ça.
D'accord. Et tu disais aussi que t'étais à ton compte alors, donc à côté.
Et alors j'ai aussi une autre entreprise avec laquelle je fais de la création visuelle.
D'accord.
Mon parcours aux Beaux-Arts justement m'a amené à me spécialiser, on va dire, sur la création numérique, la création à l'aide de logiciels. Que ce soit de la photographie, de l'illustration, du site web, de l'affiche, de la vidéo. Et depuis un an maintenant, j'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle je vulgarise des bouquins.
Très bien. Dans n'importe quel domaine ?
Alors, je suis en train de me spécialiser, les personnes qui suivent ma chaîne pourront le dire, je me spécialise essentiellement dans l'étude des systèmes. C'est comme ça que je le définirais. C'est tous les bouquins qui parlent de la façon dont fonctionne le système qui maintient les humains dans une société cohérente. Donc, j'ai lu énormément d'essais philosophiques, de sociaux, de philo. J'ai lu aussi beaucoup d'économie, parce que malgré tout, l'économie est un grand facteur de cohésion sociale ou de décohésion sociale, c'est selon. Mais en tout cas, l'économie va justement influer sur les trajectoires collectives. Et la façon dont on perçoit et dont on gère l'économie influe sur la vie quotidienne de tous les êtres humains qui peuplent notre planète. Et donc, c'est les bouquins dont je parle essentiellement, ce sont effectivement des bouquins qui traitent justement de ce genre de questions.
Très bien. En fin de compte, t'aimes aussi transmettre. T'aimes transmettre ton savoir sur des choses qui t'intéressent.
Exactement. Et ça, c'est justement un bilan de compétences que j'ai réalisé il y a 2 ans qui m'en a fait prendre conscience. À l'époque, je travaillais comme ouvrier agricole. Donc, j'étais dans une ferme bio qui fait pousser du blé en agriculture biologique, qui transforme son blé en farine et qui ensuite transforme cette farine en pâte alimentaire, donc de tagliatelle, spaghetti, etc. Donc, j'ai exercé ce métier pendant 5 ans. Ça va être l'une de mes plus longues expériences professionnelles d'ailleurs.
Ah oui, c'est ça que je voulais te demander. Donc, 5 ans, t'es resté...
5 ans et c'est vraiment, oui, c'est la plus longue. Si j'étais surveillant aussi, mais donc assistant d'éducation. Et je l'ai exercé dans différents établissements, donc je les considère comme des expériences différentes, puisqu'en fonction des équipes et des établissements, on n'a pas du tout la même ambiance, ni la même façon de travailler.
Et j'ai une petite question, parce que moi du coup je suis dans le même cas que toi, donc je diversifie mes activités. Est-ce qu'on t'a déjà traité de personne instable? Parce que pour beaucoup, ça paraît comme être de l'instabilité.
Ouais, ou est-ce que tu t'es senti instable? Oui. Ou quand on disait « Bonjour, tu fais quoi comme travail ?» Voilà, est-ce que tout ça...
Alors cette question-là, elle est vraiment particulière et je trouve qu'elle est assez symptomatique. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est un peu une question de présentation.
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et si justement la réponse est du chômage ou pas grand-chose, on est tout de suite un peu dévalorisé aux yeux de notre interlocuteur.
Exactement.
Je me suis jamais senti instable dans le sens où j'ai un socle familial qui est très très costaud. On est très soudés dans notre famille. La famille que j'ai fondée par la suite est également très soudée aussi. Donc je me sens pas instable à ce niveau-là. Et peut-être justement grâce à la chance que j'ai d'être né dans la famille dans laquelle je suis né, j'ai pas vraiment d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Je sais que si demain je me retrouvais complètement à la rue, sans toit sur la tête, sans argent, ma famille m'aiderait quoi qu'il arrive. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde et c'est une chance qu'il faut savoir reconnaître.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, justement, je me sens pas instable parce que j'ai cette sécurité familiale. Mais par contre, c'est vrai que l'identification d'une personnalité à un boulot, en tout cas à une profession, c'est quelque chose qui m'a toujours questionné parce que j'ai du mal à concevoir qu'on puisse se dire, toute ma vie, je ferai ce truc-là. Je suis tellement intéressé par des choses différentes à 6 mois d'intervalle que j'arrive pas à me projeter et me dire, si ça se trouve, dans 5 ans, ça m'intéressera plus du tout ce que je suis en train de faire. On pourrait dire que je me sens instable par rapport à ça, par rapport à cette pression sociale d'avoir un métier qui rentre dans une case, qui soit reconnu, qu'on puisse valoriser dans une conversation ou sur un CV. Mais par contre, contrairement à beaucoup de personnes que je connais, je me sens particulièrement stable justement dans ma vie de famille, qui est pour moi la part la plus importante de la vie. Quoi.
D'accord, très bien. Justement, par rapport à ta famille où tu es né, tes parents, eux, ils étaient comme ça aussi ou ils ont toujours eu le même métier ou tu...
Ah non, justement, mes parents, ils ont toujours eu le même métier.
Ah oui, d'accord, très bien.
Ma mère était instite. Et donc, elle a fait ça toute sa carrière. Mon père était fonctionnaire de police. Il a aussi fait ça toute sa carrière. Mais par contre, j'ai l'impression que le rapport au travail dans ma famille est un peu particulier. Ma mère a pu bénéficier d'un régime à l'époque, quand on avait fait 17 ans de carrière dans l'éducation nationale et qu'on avait 3 enfants, jusque dans les... Alors, je sais plus jusqu'à quand, mais jusqu'à une certaine époque, on pouvait partir en retraite anticipée. Donc, une retraite avec une décote, mais qui lui a permis de partir entre ses 45 et 50 ans en retraite anticipée. Mon père, après un infarctus, a justement arrêté son boulot de manière anticipée également. Malgré l'insistance de sa direction en disant mais non vous faites du bon travail, il faut rester, il dit non mais moi ça m'intéresse pas, je veux pouvoir profiter de mes enfants, de ma famille. Et donc ce rapport au travail, j'ai l'impression que j'ai pas grandi dans une famille où le travail était la valeur primordiale d'une éducation.
T'étais assez jeune en fin de compte quand ils ont arrêté.
Oui j'étais assez jeune quand ils ont arrêté et alors, je tiens à nuancer quand même un peu mes propos, si mes parents écoutent. Ils m'ont mis au travail quand même, malgré tout, très jeune. À partir de 15 ans, ils m'ont dit, Pierrot, cet été, va falloir que tu travailles. C'est pas pour nous, c'est pas pour nous redonner l'argent, ça te fera de l'argent de poche, Mais c'est pour que tu te rendes compte de la réalité du monde du travail. Et effectivement, quand on vit dans la famille dans laquelle j'ai vécu et avec, du coup, des facilités scolaires, puisque avec une mère instite, malgré tout, quoi qu'on en dise, ça aide à réussir à l'école. Je me suis jamais senti ni en difficulté ni mis à l'écart. Donc, j'ai toujours été dans le, on va dire, dans le schéma classique. Enfin, ma voie était toute tracée. J'aurais dû devenir fonctionnaire comme mes parents. Ça aurait été la voie toute tracée, oui. Quoi.
Je disais que le sujet est passionnant, mais on va faire une petite pause musicale.
Avec plaisir.
Vas-y. Voilà. Alors, on va écouter.
Vas-y, Pierre.
Voilà.
On va écouter Tonk des Seatbelts, qui est la musique originale du génial animé Cowboy Bebop.
Ben super. À tout de suite.
À tout de suite.
Retour à 30 minutes de bonheur sur les slashers avec Pierre. Alors Sophie, avant qu'on écoute la musique, tu avais une question. Je te rappelle peut-être.
Je me rappelle peut-être.
Je t'ai coupé dans ton élan.
Bah tiens, justement pour aider les gens qui nous écoutent, comment tu fais en fin de compte pour trouver d'autres travail? Est-ce que tu n'acceptes que des CDD comme ça? Tu sais qu'il y a des fins de mission et ça te rassure. Bon, je sais pas si t'as besoin d'être rassuré ou pas. Ou ça te dérange pas de prendre un CDI, le couper et puis prendre autre chose? Comment tu fais?
C'est un peu ce qui est arrivé justement avec mon dernier emploi. Quand j'ai postulé pour travailler comme ouvrier agricole dans une ferme à bio, donc qui répondait, on va dire, aux exigences que je cherchais dans un métier, c'est-à-dire proche de chez moi, donc peu de transport, qui soit utile socialement. Donc l'agriculture biologique, le fait de nourrir des humains et de travailler en agriculture biologique, pour moi, ça représentait un peu tout. On va dire toutes les conditions que je voulais dans un métier idéal, surtout avec la construction d'une vie de famille, des enfants en bas âge. Et mon patron m'a dit au moment de l'embauche, écoute, on va commencer par un CDD et si ça le fait, on passera en CDI. Et en fait, au moment de signer le contrat, il dit, écoute, je t'ai fait un CDI direct. Je me dis que c'est une preuve de confiance que voilà, j'ai envie de miser sur toi. Et c'est là où j'ai un peu freiné les cas de fer en disant un CDI, je suis pas. C'est-à-dire que moi, je sais que je me lasse vite. Je préfère être honnête avec toi. Je veux bien m'engager pour 2 ans dans la boîte où tu peux être sûr de compter sur moi. Par contre, au-delà, voilà, je peux pas présumer de l'intérêt que j'aurai toujours ou pas pour le boulot, quoi. On a fini par se mettre d'accord sur un CDI avec la possibilité, si jamais je devais partir, d'une rupture conventionnelle. Et en fait, effectivement, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, j'en suis arrivé à la maîtrise, on va dire, totale de mon outil de travail. J'avais plus grand chose à apprendre, il n'y avait pas tellement d'évolution de carrière possible, et le métier était malgré tout assez répétitif. Et donc, c'est là où je suis revenu voir mon patron en disant, bon, bah voilà, je commence à regarder des offres d'emploi quand je suis au boulot. Pour moi, il faut que il faut qu'on en parle au moins, que je vienne pas à reculons et que je commence pas à faire la tronche dès que je viens au boulot, ça va pas le faire. Et il m'a proposé, il m'a dit, essaye de faire un bilan de compétences. T'as peut-être un CPF pour voilà, pour pouvoir faire le bilan de compétences. Lui, c'est ce qu'il avait fait. Il travaillait à la chambre de l'agriculture et il a fait un bilan de compétences. Et en fait, c'est comme ça qu'il a monté donc son atelier de fabrication, de transformation de pâtes, quoi.
D'accord, c'est intéressant. Donc, c'est grâce à lui que tu as fait ton bilan de compétences.
C'est ça.
Et donc, le bilan de compétences, ça a sorti quoi ?
Eh bien, en fait, à l'issue du bilan de compétences, donc un bilan de compétences qui a été très complet et qui, en fait, j'ai rencontré 3 personnes qui m'ont proposé des bilans de compétences. Et il y a une personne spécifiquement avec qui je me suis dit, bah, là, le courant passe bien. Et puis, j'ai l'impression que c'est la personne qui sera la plus à même de répondre à ce que je pense avoir comme attente. Et en fait, cette personne, au travers de ces questions et des échanges qu'on a pu avoir, on en est arrivé à la conclusion que, je cherchais peut-être pas un métier. Alors, j'étais un peu désarçonné parce que, quand on fait un bilan de compétences, c'est pour trouver du boulot, a priori. Et donc je lui dis, mais comment ça, je cherche pas un métier. Il dit, mais est-ce que t'as déjà envisagé le fait d'avoir plusieurs emplois en même temps, un carton, 2 cartons, 3 cartons, un mi-temps et 2 cartons, enfin, d'avoir un autre exemple de système que juste le métier à temps plein, les 35 heures par semaine dans une boîte, voilà, avec des horaires fixes. Et je m'étais jamais posé la question. Et ce qui est sorti aussi du bilan de compétences, c'est, il m'a dit, mais en fait, voilà, moi, ce que je ressens de tout ce qu'on a pu échanger, c'est que t'as l'envie de transmettre. T'adores découvrir de nouvelles choses et t'adores les transmettre. Mais est-ce que t'as déjà réfléchi à être compteur? Et alors, moi, je me suis dit, c'est sympa d'être compteur, mais j'avais cette image. Alors, je suis désolé pour toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du spectacle ou quoi, mais pour moi, c'était pas un vrai métier. J'avais du mal à imaginer que je puisse en vivre. Et puis surtout, j'avais l'impression que la réalité du travail de compteur, c'était beaucoup faire des choses que j'avais déjà fait, c'est-à-dire essayer de se vendre auprès de personnes qui ne nous attendent pas forcément. Et moi, je suis pas du tout à l'aise avec ça. Et donc, j'aurais même, selon ma compagne, plutôt tendance à me dénigrer quand je me présente aux gens. Et ça joue pas en ma faveur. Et puis surtout, c'est un exercice dans lequel je me sens pas à l'aise, quoi. Et donc, le métier de compteur, je me suis dit, non, d'accord, il faut que je fasse quelque chose de cette information, parce que effectivement, apprendre des choses et les restituer, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, que j'ai toujours fait. Et rétrospectivement, quand je regarde tous les travaux que j'ai pu faire au Beaux-Arts, quand je regarde les associations dans lesquelles je me suis investi, etc., je me suis rendu compte que c'était effectivement un marqueur fort de tout mon parcours, quoi. Et c'est pour ça que j'ai lancé dans la foulée la chaîne YouTube, sachant que c'est un projet que j'avais depuis 2015. Et mais comme tous les projets, comme le nombre de projets que je peux avoir, oui, mais dans 6 mois, ça va me passer. Moi, je vais pas me lancer là-dedans, alors que bon, dans 6 mois, voilà, je suis reparti pour faire du pain ou je sais pas quoi. J'ai essayé, ça m'a duré même pas 6 mois et voilà, je suis passé à autre chose aussi. Mais par contre, cette idée de vulgariser des bouquins, surtout des bouquins qui m'ont particulièrement marqué, c'est toujours resté présent. J'ai créé cette chaîne YouTube en 2015, je n'ai jamais rien posté dessus jusque septembre dernier.
D'accord.
Et depuis donc septembre 2023, et depuis septembre 2023, là, j'ai fait 35 vidéos et j'en suis très content parce que je rencontre un public vis-à-vis de ça, ça a l'air de plaire. Moi, je m'éclate à le faire, c'est un exercice qui me contraint pas, c'est-à-dire que même si je peux bosser jusqu'à 2-3 voire 4 heures on va dire 2 à 3 soirs par semaine sur spécifiquement ce projet de lire des bouquins, écrire des textes et puis ensuite les tourner, les monter. Ça reste un plaisir. Ça reste toujours un plaisir, alors que les 6 premiers mois, je me suis astreint à faire une vidéo par semaine, histoire de me dire, je me lance vraiment dedans. Je vais vraiment essayer de me lancer, on va dire, à corps perdu là-dedans, un peu comme une passion, ce que j'avais jamais vraiment fait auparavant. Et je pense que si j'avais jamais fait ça auparavant aussi, surtout vis-à-vis de cette chaîne YouTube, c'est parce que j'ai une idée de quelque chose de parfait en tête, et que tant que ça reste en tête, c'est parfait. À partir du moment où on la réalise, ben c'est là qu'on se rend compte que, ah oui, non, mais je vais pas présenter ça. C'est absolument pas regardable, écoutable. C'est mal écrit, c'est mal joué. Enfin, voilà. Et ma compagne m'a beaucoup aidé là-dessus en disant, mais fais, et puis tu passes à la suite. Tu verras tous les défauts qu'il y a dans la première fois, mais au moins, ça c'est fait, tu passes à quelque chose d'autre. Et effectivement, ça m'a bien motivé. Maintenant, j'ai réduit le rythme des vidéos pour pouvoir bah, justement parler plus des bouquins qui m'intéressent vraiment et qui nécessitent beaucoup plus de travail que juste une semaine, pour pouvoir produire quelque chose. Et là, je m'éclate vraiment dans cette réalisation-là. À côté de ça, bah, du coup, on en revient au slasher, c'est j'ai besoin quand même d'avoir une activité où je me sens utile socialement, au-delà de la transmission, de la vulgarisation, qui, on va dire, reste un loisir, puisque ça rapporte absolument pas d'argent. Voilà. Et j'avais besoin de, donc quelque chose de socialement utile. Et le métier d'AESH, il y avait deux gros avantages pour moi, c'est enfin trois même. Il y avait donc les horaires qui me permettent d'avoir exactement les mêmes horaires que mes enfants, et donc de pouvoir les récupérer à la sortie de l'école, de pouvoir passer mes mercredis avec eux, les week-ends avec eux, les vacances scolaires aussi avec eux. Ma compagne est instite, donc bah avec tout de passer toutes les vacances scolaires avec toute ma famille. Autre chose, c'est que c'est forcément un boulot proche que de chez nous, puisque c'est maximum 20 km du lieu de résidence de l'AESH. Donc ça limite les déplacements, donc socialement utile, proche de chez moi, qui me laisse du temps pour ma famille, et en plus de ça, bah du coup, ça nous a permis de supprimer une voiture sur les deux du couple, puisque bah maintenant on travaille dans le même patelin et que bah on fait les trajets ensemble, quoi.
Non, mais c'est super ça.
Ah bah ça apporte beaucoup d'avantages. Ouais. Par contre, ça apporte 920 euros par mois.
C'est ça.
Ce qui est un peu, à 37 ans, se dire qu'on touche moins que le SMIC tous les mois, c'est bon, bah, c'est un peu dur, et heureusement que bah du coup ma compagne me soutient dans ce projet. En me disant, mais voilà, continue les vidéos, continue d'autres choses, et puis essaye de prendre tout ce qui arrive, quoi. Et effectivement, justement, là, le bilan de compétences m'a mis en relation avec vous.
Oui, bah oui, parce que moi, je vous ai rencontré sur LinkedIn, et j'ai vu Slasher, et comme moi-même, je viens de découvrir que j'étais slasheuse, je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant de faire appel à quelqu'un. Et Karine, mon nouveau binôme, est aussi dans le même domaine. Oui, je me suis dit, voilà. Et nous, la radio, notre émission de 30 minutes de bonheur, je crois que c'est notre thérapie.
Oui,
hein. On invite, tous nos invités, ça nous parle. Mmh. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, j'ai découvert vraiment par Gwenaël, qui est venue à plusieurs reprises témoigner à notre émission de radio. Mmh. Et juste avant de commencer la radio, quand elle a sorti son single, parce qu'elle est ostéopathe, elle chante, elle fait plein de choses, et elle me dit « je suis slasheuse ». Je fais quoi ? Et j'ai juste écrit sur ma feuille, slasheuse, on n'en a pas parlé pendant l'émission. J'ai mon conjoint qui a écouté l'émission qui m'a dit, ouais, il me fait, j'ai entendu le mot slasher. Ça veut dire quoi? Et ça serait peut-être intéressant qu'un jour vous fassiez une émission sur les slasher. Et donc, il y a un livre, qui existe, les slasher. Et grâce à ça, comme moi, je me croyais instable, grâce au livre, je me suis dit, mais en fin de compte, j'ai besoin de faire plusieurs métiers. Mmh. Voilà. Moi, maintenant, j'en fais plusieurs dans la journée. C'est peut-être un peu lourd aussi. Donc, peut-être que ça soit plus ciblé jour par jour. Si j'ai trois jours à un endroit, deux jours à un autre endroit, ça serait déjà plus simple. Mm. Plus maintenant, la radio, c'est plus ciblé, c'est tous les 15 jours. Bon, c'est voilà.
Mais ce que je retiens, moi, quand même, c'est que tu as beaucoup insisté sur la notion de plaisir, en fait.
Oui.
Ah ben
oui.
Ça, c'est important d'avoir des activités qui nous font plaisir, dans lesquelles on se sent bien.
Je crois que c'est ça, c'est que le métier, moi, j'adore travailler. En fin de compte, pour moi, le travail, c'est un plaisir. Je vais pas au travail pour aller au travail. Quand j'en entends qui disent c'est pour payer facture, moi j'ai du mal.
Ben justement, c'est un peu la conception que j'ai toujours du travail. C'est-à-dire que le travail, c'est une étape obligatoire pour pouvoir être inséré dans la société. Sans travail, on ne peut pas avoir d'argent. Si on n'a pas d'argent, on n'a pas de compte bancaire. Si on n'a pas de compte bancaire, on peut pas faire de prêt. Si on peut pas faire de prêt, on peut pas accéder à la propriété. Donc en gros, à partir du moment où on n'a pas de travail, ou en tout cas on ne se résout pas à se mettre dans le monde du travail, en tout cas tel qu'il est traditionnellement défini, on est de fait exclu d'une partie de la société. Et ça c'est un truc qui, justement, j'ai pas envie de m'exclure. Alors de m'exclure moi personnellement, pourquoi pas, c'est des trucs qui peuvent me plaire éventuellement à un certain moment, et encore peut-être 6 mois et pas plus. Comme beaucoup de choses, mais par contre, je voulais absolument pas faire subir ça à ma famille. Ma femme, qui n'a pas du tout choisi justement, qui est les professeurs des écoles et qui a toujours été professeur des écoles, je voulais pas non plus être une charge pour elle, et je veux pas que mes enfants vivent dans un lieu qui soit complètement coupé du monde, dans lequel il y a que des gens qui pensent exactement pareil que ses parents, leurs parents, quoi. Et donc, pour moi, c'était une étape obligatoire. J'ai cette conception-là du travail comme l'obligation. On a tous l'obligation de travailler pour être citoyen, finalement.
Bon, bah, je suis désolée, je vais être rabat-joie. On va être obligé de couper parce que malheureusement, ça ne s'appelle pas deux heures de bonheur, ce qui est bien dommage, parce que le sujet est très intéressant. Donc, avant de nous quitter, est-ce que tu veux nous donner le nom de ta chaîne YouTube?
Alors oui, du coup, ma chaîne YouTube, ça s'appelle L'Utopique Ordinaire. Et j'ai l'émission sur laquelle je travaille qui vulgarise des bouquins, c'est J'ai lu un truc. Donc normalement, en tapant « j'ai lu un truc sur YouTube », on devrait tomber dessus.
D'accord. Bah sur Radio G, je mettrai en dessous tes coordonnées avec le lien.
Merci. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, Pierre. C'était